d'horizon mordante, horizon mordante, horizon mordante, horizon mordante, horizon mordante.
Et à quand la fin de toute forme de distinction sociale, à quand la fin de toute forme de ségrégation raciale, à quand la fin de toute forme de discrimination aux femmes?
Il s'agit d'une question.
Bon, je crois qu'il est normal qu'on demande aux jeunes filles, surtout lorsqu'elles commencent à être désirables, de... faire en sorte qu'elles ne provoquent personne.
Et quand tu seras capturé, comment tu te sauveras?
Attends, je suis ceinture noire, mon corps est devenu une arme meurtrière, je me suis transformée.
Pas de pleurs, pas de pleurs. Pas de jalousie, si tu veux, on se voit une fois par semaine le jeudi.
Sex is for making babies, 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 sex is for making babies.
Le silence des voix, faudrait l'exécuter.
Faire en elle.
Non mais je rêve.
C'est sa féminité.
Tiens, je ne veux pas être ta femme, ta bitch, ta boniche. Que tes négros me voient avec toi, tout ça je m'en fiche.
Il faut que je te raconte comment chaque fois j'affronte ou dois tenir tête et souvent à coups de pompe. Ceux qui me jugent et très souvent se trompent ou me guettent l'air de dire tu devrais avoir honte. Fusille des yeux la façon dont je m'habille, me demande si je suis un garçon ou une fille. Veulent dans les détails mon poids, ma taille et le mode d'emploi de mon plan de bataille.
D'horizon mordante, horizon mordante, horizon mordante.
Eh bien, bonsoir, vous êtes donc dans D'Horizon Mordante. Ce soir, c'est le deuxième épisode d'un reportage fait à Dijon pendant le festival Autoclave 2. Donc, le premier épisode qu'on vous a passé la semaine dernière, c'était donc, des reportages avec les personnes qui étaient là sur place et puis avec aussi les personnes qui organisaient ce festival avec d'autres. Et donc là, ben, ça continue avec d'autres personnes qui étaient présentes et qui ont bien voulu répondre à mes questions. Voilà, donc dans l'ambiance d'Autoclave, deuxième édition d'un festival plutôt autour du tatouage, des modifications corporelles, qui était également en soutien à des luttes de prisonniers, prisonnières, enfin voilà, des collectifs, et puis aussi à des collectifs de putes. Donc l'argent qui était fait pendant ce festival par les tatoueurs et les tatoueuses qui faisaient des tatouages prix libre étaient reversés à des collectifs qui voilà, s'occupaient de luttes politiques. Voilà, donc on s'écoute des personnes qui étaient présentes.
Alors Scar, t'es venu, c'est la deuxième fois que tu viens en fait, c'est la deuxième édition d'Autoclave. Qu'est-ce qui t'a donné envie de revenir?
L'an dernier j'étais venue pour voir quelqu'un qui finalement n'est pas venu et du coup je me suis retrouvée toute seule et ça m'a libéré plein d'espace pour faire des rencontres. J'ai rencontré plein de gens et j'avais pas mal cuisiné en fait et ça avait beaucoup plu et moi je m'étais vraiment éclatée, c'était ma première fois de grosse cuisine collective et du coup j'ai décidé de revenir parce que du coup il y a plein de potes qui sont là maintenant et puis de faire la cuisine.
Et tu t'étais aussi fait tatouer l'année dernière?
Ouais, et c'était assez fun parce que c'était un truc où quand je suis arrivée, je savais pas trop si je voulais me faire tatouer ou pas. J'avais juste ce projet en l'air là de me faire une marmite. Et puis en fait, j'en ai parlé à des gens dans une conversation. Et puis le lendemain, Paul est arrivé avec un dessin qu'il avait fait en entendant la conversation. Et il m'a dit tiens, tu veux que je te tatoue ça? Et je lui dis ouais, vas-y, on fait ça. Et du coup, on l'a fait et c'était vachement bien. Et j'ai aussi appris à tatouer l'an dernier. Ouais, il y avait une initiation de tatouage, alors je me souviens plus trop qui c'est qui l'avait fait. Mais du coup, On était peut-être une dizaine ou une quinzaine dans une salle. Et puis on a tout passé en vue, l'hygiène et machin, et comment tu fais pour faire un tatouage vraiment clean. Et puis après on s'est mis par paire et il y a quelqu'un qui voulait bien que je le tatoue, et du coup je l'ai tatoué à l'aiguille, et c'était trop trop chouette. Et ça aussi, enfin, en fait je crois qu'en général, ce qui m'a donné envie de revenir, c'est que l'an dernier l'ambiance était tellement choupi et tout le monde était hyper gentil, il y avait plein de tendresse, il y avait pas de relou, et c'était un truc où même si tu connais pas trop les gens, en fait il y a plein de love partout, et du coup c'est assez rare dans ma vie les moments comme ça, et donc ça m'avait du coup beaucoup plu quoi.
Et alors cette année tu penses aussi te refaire un tatouage?
Ouais, alors cette année en fait je suis arrivée avec 5 projets de tatouage. Je pense que je vais pas tous les faire. J'aurai pas le temps et les tatoueurs ils auront sûrement pas le temps. Et puis je fais beaucoup de cuisine et ça prend pas mal de temps aussi.
Et tu sais déjà où est-ce que tu veux l'emplacement où tu veux les mettre?
Non, je sais pas trop. En fait j'ai un problème avec la symétrie dans ma vie. Et du coup les tatouages que j'ai déjà, en fait si je fais d'autres trucs de l'autre côté, il faudrait que ça soit relié ou opposé ou un truc comme ça d'une manière ou d'une autre. Et comme les idées que j'ai, elles vont pas du tout avec les tatouages que j'ai déjà, il faut que je trouve des emplacements qui sont pas dans la symétrie. Donc ça va être peut-être les jambes, j'ai rien sur les jambes en fait. Tous mes tatouages ils s'arrêtent en dessus de mon nombril en fait. Ou l'intérieur du bras, j'aime bien aussi, genre l'intérieur du bras gauche là. Comme ça tu peux facilement le cacher avec un t-shirt si t'es en manif ou quoi. Et c'est un peu intime et en même temps tu peux le montrer facilement si tu veux.
Parce que du coup t'as un souci de savoir s'ils sont visibles ou pas tes tatouages?
Ouais, c'est important pour moi de pas... on est très surveillé, je pense, autant sur Internet que dans la vraie vie. Il y a des caméras partout, dans toutes les villes et tout ça. Et puis, du coup, j'aime bien ne pas trop avoir de signes extérieurs reconnaissables, surtout quand je vais en manif ou quand je suis dans des endroits, dans des squats et tout ça. Donc, je couvre mes cheveux souvent, je mets une casquette ou je change hyper souvent de couleur de cheveux, ce genre de trucs, c'est important pour moi. Du coup, je veux pas trop faire de tatouages sur les mains ou sur le visage. Et puis il y a aussi ce truc où, a priori, je suis pas partie pour bosser dans des trucs méga formels, genre de la banque ou le gouvernement. Mais en même temps, si un jour ça se présente et que pour une raison extraordinaire et bizarre, je voudrais bosser au gouvernement, peut-être je veux bien pas avoir des tatouages sur la tête.
Du coup, c'est la tête qui te paraisse problématique. Plus que, parce que tu parlais des manifs et tout, finalement, tu peux montrer ton cou, les bras. Il y a quand même plein de parties visibles qui sont pas forcément stigmatisantes, mais... Enfin, je sais pas en tout cas, mais qui sont visibles, quoi. Et tu parles pas de celles-là. Qu'est-ce que tu fais comme différence?
Sur la tête, c'est sûr que j'ai pas envie de trop modifier ma tête pour le moment. Parce que j'ai déjà beaucoup d'espace de jeu avec le maquillage et tout ça. Et du coup, j'ai pas spécialement envie d'afficher un truc sur mon front ou quoi. Après, sur les bras, c'est différent. Je pense si je devais me faire des tatouages esthétiques, je le ferais sur les bras parce que je pense que c'est pas discriminant. Par exemple, ma meilleure pote, elle a un tatouage, en fait, c'est comme si elle avait noué un fil autour de son poignet. C'est juste un petit trait, genre un trait qui fait le tour de son poignet avec un petit nœud, qui est très joli. Et ça, je pense pas que ça soit handicapant. Par contre, si j'ai, je sais pas, une moon cup ou un gros A de anarchie sur le bras, ce que je me ferai pas de toute façon, mais voilà, je pense que c'est plus compliqué d'assumer ça publiquement. Voilà. J'ai pas spécialement envie de faire des tatouages esthétiques, genre les tatouages érotiques sur les reins et tout ça. C'est un truc que moi, j'ai pas envie d'inscrire dans mon corps. Quand je fais des tatouages, c'est souvent parce que j'ai besoin d'inscrire quelque chose dans ma peau, comme une espèce de post-it, tu vois, de te rappeler que ça, c'est important pour toi à ce moment-là de ta vie. Et du coup, c'est aussi, je trouve ce rapport-là à mes tatouages plus confortable dans la durée, parce que pour moi, ça sera toujours, ça, c'est une marque qui représentera qui je suis ou de quoi j'ai envie, qui j'ai envie d'être dans ma vie à un moment donné, en fait. Et du coup, je sais que je le regretterai jamais parce que voilà, à 22 ans, et ben, le truc qui était le plus méga important pour moi dans ma vie, c'était la cuisine et l'amour que je peux donner à travers la cuisine. Et ça ne changera pas, en fait, parce que je ne changerai pas la personne que j'étais à 22 ans. Et du coup, voilà, c'est des espèces de... C'est comme une espèce de chronologie évolutive de qui je suis, en fait, sur ma peau. C'est hyper profond.
Wow, c'est méga classe.
C'est ce qui me va bien, quoi.
Ouais, de toute façon, enfin, moi je trouve que c'est ça, hein, le tatouage c'est aussi des histoires de vie, quoi.
Ouais, c'est ça. Et en même temps, il y a aussi des trucs marrants, je sais pas, moi j'ai pas encore de tatouage collectif, mais...
Qu'est-ce que t'appelles tatouage collectif?
Bah tu sais, il y a souvent des gens qui sont dans le même crew de squat ou le même crew de je sais pas quoi et qui se font le même tatouage. Et moi j'ai jamais encore fait ça parce que je crois que je suis plus dans les relations interpersonnelles que les relations de groupe. Et du coup, j'ai pas ça trop dans ma vie. Puis il y a aussi des espèces de tatouages qui sont des références que moi j'ai pas mais que d'autres gens ont, et je trouve ça hyper cool. Des références justement des références à des trucs collectifs, même si tout le monde n'a pas le même tatouage dans le crew. Je sais pas, il y a une personne que je connais qui a une tête d'ail parce qu'elle était dans un crew où ils mangeaient plein d'ail, un coup de squat et tout, et je trouve ça hyper mignon en fait, que genre ça représente un truc pour elle et ça représente un truc pour d'autres gens, où ses potes ils voient son tatouage et ils peuvent se dire bah ouais en fait ça représente un peu qui on est et tout ça. Et je trouve qu'il y a plein de significations autour du tatouage que j'aime bien creuser. Et cet esprit que j'aime bien à Autoclave, c'est ce truc de DIY où en fait t'as pas d'un côté les tatoueurs et de l'autre côté les tatoués ou les consommateurs. C'est un truc, et je pense que c'est vraiment pensé comme ça dans l'organisation et tout. Où en fait je trouve des gens dans tous les coins qui se tatouent à l'aiguille, qui se font des petits points, des bidules, qui essayent, qui jouent avec ça. Et je trouve ça vachement riche en fait de signification et de relations interpersonnelles, parce qu'en fait, quand tu tatoues quelqu'un ou quand tu te fais tatouer par quelqu'un, il y a aussi une relation qui se crée, c'est pas juste de l'encre dans ta peau, c'est une espèce de moment d'émotion et tout ça qui est hyper important pour moi quand je me tatoue. C'est aussi l'inscription d'un moment vraiment génial en fait, qui restera avec moi toute ma vie du coup, et ça c'est bien, ça me plaît.
Et du coup tu parlais du fait que ce qui était particulier ici, c'est pas que le fait de venir se faire tatouer, il y a plein d'autres choses. Moi ce que je remarque aussi là, c'est qu'il y a énormément de femmes et aussi pas mal de femmes qui tatouent. Qu'est-ce que t'en penses toi, enfin, comment tu vois cette particularité de comment ça se passe ici?
D'une part ça rend les choses hyper safe pour moi, parce que je connais pas très bien l'univers du tatouage mainstream, mais j'ai l'impression que souvent c'est un truc de gros couillu et j'ai pas forcément spécialement quelque chose contre les gens qui ont des testicules, mais juste les ambiances macho virilistes, elles me font chier en fait. Et du coup je sais qu'il y a pas mal de copines féministes parce qu'on se connaît et tout, et qu'il y a des brochures, et qu'un espace comme ici c'est un espace assez safe où s'il y a un relou on le gère tout ensemble. Et en fait depuis hier je fais que parler de travail du sexe et de règles et de rapport au corps avec des meufs, et ça c'est hyper bien en fait, c'est hyper riche aussi, il y a une espèce de solidarité et de bienveillance qui est hyper importante pour moi. Mais je trouve ça vachement important, cette espèce de réappropriation du corps, où en fait on a plein de standards de beauté qui nous sont imposés par la société, les normes et tout ça, et se les reprendre en main en fait pour faire un truc entre meufs, que c'est toi qui l'as décidé, que c'est une copine qui te tatoue, je trouve ça beau et important et signifiant en fait, et du coup c'est chouette. Et aussi le fait qu'il y ait plein de meufs ici, ça veut dire qu'il n'y a pas trop de remarques reloues, pas trop de trucs excluants ou sexistes, et ça fait du bien je pense.
Et du coup tu crois pas que c'est aussi une volonté, le fait qu'il y ait des femmes? Comment tu le sais à l'avance que ça va pas être relou?
Par exemple, je sais que, parce que je suis venue l'an dernier, moi, et du coup, j'avais vu que c'était comme ça. Et s'il y avait eu plein de gros relous sexistes, je serais peut-être pas repassée, en fait. Tu sais à l'avance aussi parce que voilà, enfin tu vois, ça fait 2 mois que je sais que Autoclave ça va avoir lieu, et ça fait 2 mois que j'envoie des mails dans tous les sens à toutes mes copines pour leur dire vas-y viens, c'est trop bien et tout, on pourra faire ça nanana, et que les personnes avec qui j'ai organisé la cuisine en fait elles sont super chouettes et elles sont hyper féministes et tout, et c'est comme ça que je le savais en fait. Et après, enfin c'est pas un truc indispensable pour moi, par exemple la non-mixité j'aime bien, mais après je peux m'en passer aussi. Ouais, je sais pas, c'est juste un plus en fait. C'est une espèce de couche de bienveillance en plus qui rajoute à tous les trucs qui sont déjà trop bien ici en fait. Ouais, c'est cool.
Merci.
De rien.
Pour ceux que débutent dans le tatouage. marche plus, donc j'ai essayé de casser ma voix encore un peu. La troisième chose, c'est qu'il a un film dans la cave, là. Et il y a un court-métrage sur les prisons en Belgique qui s'appelle Maxi Prison versus Maxi Rébellion. Donc c'est une espèce d'appel à émeute qui dure 10 minutes. Et juste après, il y a un film qui s'appelle Jour de sortie. On ne l'a pas annoncé dans le programme parce que normalement, elle est censée être censurée. La personne qui l'a fait a un problème un peu compliqué avec la direction de la prison où il l'a fait. Et du coup, le film il a été censuré. Et il nous a demandé de ne pas l'annoncer, mais qu'on va quand même le passer. Et c'est un concept assez cool parce que c'est un film qui se passe juste... C'est juste un dessin en progression où les gens ils racontent les jours de sortie de la prison. Et donc, on peut voir les histoires qui vont se dessiner avec le dessin. Voilà. Et donc ça se passe à la cave maintenant. Et sinon, il y a l'espace en centre-ville, l'espace off, qui s'appelle Silencieux, où il y aura de corsets, des suspensions et d'autres choses relatives aux modifications corporelles. On veut faire des navettes pour les gens, pour qu'ils aillent, pour qu'on puisse aller un petit groupe entre 5 et 10 personnes. Donc si vous êtes intéressé pour voir les suspensions, les corsets, le play piercing et tout ça, du pooling et d'autres choses, il faut venir à l'accueil là-bas, s'inscrire et on fera une navette dans, je sais pas, une demi-heure, une heure. Ah, bah, pardon, en fait, aujourd'hui c'est juste des suspensions. Il y aura que des suspensions là-bas. Donc voilà, si vous avez des doutes, regardez la table là-bas où il y aura des gens un peu et puis on peut vous expliquer le programme et tout ça. Et voilà. Bah, merci.
Voilà, toujours sur d'Horizon Mordante, 89.5 FM sur Radio Dio. Et on continue donc à Autoclave, ce festival de tatouages et un peu inspiré des Tattoo Circus en Europe, avec Wilma qui nous raconte un peu comment ça se passe pour elle, et avec Max également, et d'autres pour ce reportage sur Autoclave 2 à Dijon en septembre dernier. Bon, mais là, t'es bien posé tranquille en fait, parce qu'ici c'est un peu isolé par rapport au reste.
Ah ouais, t'es bien. Ouais, ouais. Je préfère pas aimer qu'il y ait plein de monde qui passe. C'est ça.
Oui, parce que là, on est dans l'espace queer non mixte.
Voilà.
Et vous avez même mis une chaîne sur la porte pour vous protéger un peu.
Ouais, ça, c'est un incident.
Mais du coup, Wilma, pour toi, c'est une volonté quand même d'être tranquille, d'être entre soi et tout
Ouais, moi j'en ai un peu marre de... Ça fait 20 ans que je fais des tatouages. Et ouais, j'ai envie de faire pour les gens de ma communauté là maintenant. Fin de l'histoire.
Ouais.
Voilà. Les autres, ils m'intéressent plus trop. Quoi. Les autres, ils ont des tatoueurs motards, racistes, c'est con pour eux. Ils ont qu'à y aller là-bas.
Mais quand tu dis là-bas, c'est où?
Dans les autres magasins, dans les magasins.
Ouais.
En général, quand même. Ouais. J'avais un salon à Marseille.
Mais du coup, même ici, dans un état d'esprit différent, t'as eu envie d'avoir un espace réservé, quoi.
Bah ouais, justement, ouais. Parce que j'en fais souvent quand même des trucs de convention un peu comme ça dans des... Des conventions alternatives, j'en fais quand même assez souvent. Et justement, quoi, enfin, le problème, il n'est pas que ce soit dans un endroit plus cool qu'ailleurs. Le problème, il est que, juste, je trouve qu'en général, les gens de la communauté gay, en grand général, ouais, ils se font avoir à chaque fois qu'ils vont chez un tatoueur. Bien souvent, malheureusement. Du coup, ben, je suis là pour rendre la justice. Voilà.
Parce que t'as rencontré beaucoup de personnes qui ont des histoires dures. Quand tu dis les personnes, elles se font avoir, c'est quoi qui leur est arrivé?
Bah, ils se font escroquer, pas plus que les autres, mais quand même pas mal, quoi. En général, dans la mesure où c'est des gens qui connaissent pas, enfin, c'est des escroqueries des tatoueurs de base, quoi. Mais c'est juste que ça arriverait pas s'il y avait des trucs un peu plus... communautaire ou orienté, quoi. Mmh. Ouais. Et qu'il n'y a pas vraiment de culture du tatouage gay en France. Et du coup, bah, j'aimerais bien en faire partie si ça doit arriver. Parce que ça fait 20 ans que je fais ça, et puis du coup, bah, j'aimerais bien que ça serve à quelque chose. Quoi.
Bon, et toi, Max, du coup, d'avoir des conditions comme ça pour être tatoué, ça te fait quoi?
Ah, moi, j'aime bien.
Ouais.
Aïe. Toi, d'être ici aussi, j'aime bien. Moins formel, je sais pas.
Oh, t'as l'air de souffrir un peu, Max, quand même.
Carrément.
Ah, c'est un peu la fin, là.
Je suis bien mal. Ça fait un moment, là.
Ouais.
Bon. J'ai du mal quand on me fait des trucs pour mon corps.
Ouais.
J'ai une prise de sang, ça me fait mal.
Mmh. Ah mais du coup, quel rapport t'as à ça? Parce que t'as choisi de te faire faire un peu mal là pour avoir ce truc.
Ouais, j'ai choisi d'avoir le dessin.
C'est une incidence.
C'est ça la douleur, ouais. C'est pas vraiment choisi, mais bon, je l'ai subi.
Moi, je choisis ça.
Je l'ai subi plutôt. Alors quand ça va, parce qu'elle reste à la surface. Pas de ça me fait un truc de. On rentre pas dans mon corps. Mm. Pourtant, j'ai déjà fait des piercings. Mais pas beaucoup. Parce que j'ai vraiment du mal avec ce truc de. Qu'on me fasse des trucs qu'on rentre dans mon corps.
Ouais, des fois j'aime bien.
Ouais, parce que là, avec la couleur, t'as au moins. T'en as combien des aiguilles là?
Bah, j'en ai autant que pour faire les contours en fait.
Ah
j'en
ouais?
J'en ai 9.
Ah, est-ce que ça fait un peu comme un stabilo, un truc comme ça là, un gros feutre?
Ouais, ça fait comme un. Comme une plume en fait.
Et du coup, toi, Vilma, t'as commencé comment le tatouage?
À force de me faire tatouer, quand j'étais jeune, je dessinais, puis je traînais souvent chez un tatoueur, puis c'est devenu un copain. Et puis c'est devenu un amant. Et puis il m'a appris à tatouer. Enfin, il m'a appris à tatouer, il m'a montré comment marchait la machine, et puis après, je me suis débrouillé. J'ai commencé sur moi, j'étais jeune. Mes jambes, c'était mon cahier brouillon, comme beaucoup de tatoueurs. Que je fais que ça, que j'en vis, ça va faire 15 ans. Là. Avant, je fais d'autres trucs.
Du coup, le prochain, c'est pas tout de suite.
Ça y est, t'as la dose.
Ouais. C'est bien d'oublier. Avant, non, non, non.
Et du coup, maintenant, tu tatoues plus que des personnes que tu rencontres dans des milieux plutôt affinitaires, en fait, finalement.
Ouais, c'est surtout dans la ville où j'habite que j'ai perdu mes clients, parce qu'après, il y a d'autres villes où j'avais des clients comme ça quand j'y allais, où là, je n'ai pas perdu, genre à Lyon, à Toulouse, tout ça. J'ai encore des clients, là. Pas non plus dedans, quoi, parce que il n'y a pas vraiment de milieu fille trans rock'n'roll, quoi. Souvent, elles sont un peu mes mères, les filles.
Ouais.
Malheureusement, donc c'est pas évident pourtant de pas faire peur aux gens.
Bon, c'est dommage, je crois que cette interview va pas pouvoir se poursuivre avec ce concert en direct. Je vais avoir du mal à me concentrer, elles sont mortes de rire parce que le concert en direct, effectivement, c'était la surprise. Donc comme vous l'avez compris, nous sommes au cœur d'Autoclave, n'est-ce pas? Au milieu de ce grand événement. Mais en tout cas, c'était chouette. Et alors là, ça va être un long moment avec une personne qui nous raconte pareil, son rapport au tatouage et qu'est-ce qui se passe pour elle, tout ça. Voilà.
Venir sticker une poke ou tu fais ça? Faire des petits points, et du coup tu peux gérer. Soit à cette manière là, ce qui est sur la mienne, c'est pas juste des petits points, c'est des petits ronds, donc en fait elle plante l'aiguille et elle fait
comme ça. Elle tourne et du coup ça prend vachement plus de temps que de juste taper dans la peau avec l'aiguille Du coup ça a fait 8-9 heures. Cette partie-là, elle a pris 8 heures la première.
C'est la même personne, ouais.
Ouais.
Ok.
Cette partie-là a pris 8 heures. Après, la partie au dos de mon bras, elle a dû prendre 3-4 heures. Et une ou deux semaines après, je sais plus quand. Faut attendre que tu... Enfin, on a attendu que je cicatrise, que la croûte, elle s'en aille. Et on a tout repassé. Et ça a pris 4 heures aussi. Et là, ouais, faudra peut-être repasser. Mais je sais pas.
Repasser sur les traits pour...
Mais en fait, va falloir voir. C'est toujours la même histoire avec un tatouage. C'est soit t'en prends bien soin et tu croûtes pas trop. Et du coup, l'encre, elle reste. Soit t'en prends pas trop soin, tu mets pas de crème, tu le nettoies pas et ça croûte à mort, l'encre elle part et il faut le repasser.
Magnifique pièce, ouais.
Ouais, elle bosse d'entre bien.
Là, elle s'est très, très épurée. Quoi.
Et du coup, toi, Harmonie, qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce tatouage au départ? T'en avais d'autres ou c'était le premier? Comment ça s'est passé?
Moi, le tout premier, je l'ai fait faire par. On a organisé sur la ZAD une semaine de partage, d'échange et de savoir. Et donc il y avait plein d'ateliers en toutes sortes, il y avait comment filer la laine, comment faire des teintures avec des colorations de vêtements ou quoi avec des encres naturelles, il y avait vraiment toutes sortes, il y avait des ateliers grimpe et il y avait une copine qui tatouait à la main et elle donnait un atelier un peu pour montrer aux gens comment faire et comment faire ou ce que ça faisait, les sensations, parce qu'elles sont vraiment différentes entre la machine et la main. Et moi, j'avais pas de tatouage. Et
Pour la personne qui tatoue ou la personne qui se fait tatouer, tu parles des
Les deux.
Okay, d'accord.
Les deux, c'est vraiment pas la même sensation. Vraiment pas du tout. Moi, j'ai fait mon premier tatouage à la machine il y a 3 semaines et c'est pas du tout la même sensation de tatouer. Et le ressenti est vraiment pas le même non plus. Et ouais, et donc cette personne m'a dit je fais un atelier une après-midi et j'y suis allée. Et mon rêve d'adolescente, c'était d'avoir une croix du chaos sur le bras. Et du coup, je lui ai demandé de me faire une croix du chaos avec des étoiles. Et je suis hyper contente parce que c'était pas précis, c'est pas parfait. Et moi, je suis pas trop en recherche de perfection dans le tatouage.
Belle, ouais. Si, elle est très belle.
Ouais, je suis vraiment pas en recherche de perfection de. Après, si j'ai envie d'un truc géométrique avec des lignes droites et tout ça, c'est génial. Mais là, c'est pas ce que je voulais. J'avais juste envie d'un dessin. Et après ça, c'est rigolo parce que juste avant qu'elle me tatoue, elle m'a dit « il va falloir que tu fasses attention parce que le tatouage, c'est très addictif. » Alors, soit t'as envie de te faire tatouer, soit t'as envie de te mettre à tatouer. Et une semaine, pile poil après, je prenais ma première aiguille et je me faisais mon premier tatouage toute seule sur la cheville. Ouais. Un truc hyper basique, tu vois, avec beaucoup de remplissage, où t'es sûr de pas trop te foirer, pas de lignes fines, rien. Et j'ai commencé comme ça. Et une semaine encore après, je me faisais mon deuxième tatouage. Et après, je sais pas, j'ai dû me calmer pendant peut-être un mois, ce qui est très long. Et moi, j'ai toujours trouvé ça très beau, le tatouage. Pour moi, c'est vraiment un bijou. Et après, je trouve que c'est dur parce que c'est quelque chose de permanent et il faut bien en choisir, il faut bien se décider. Et en même temps, t'as ce côté hyper excitant de. Des fois, tu te fais un truc à l'arrache et il sera là toute ta vie, mais ça te rappellera un moment. Une histoire, tu vois, un truc à raconter ou un truc que t'as vécu et qui te marque dans le cœur et que bah, du coup, t'as sur la peau et ça te le rappelle, quoi. Et d'où l'idée de ce tatouage fait par elle. Je voulais un souvenir de la ZAD. J'avais envie de me rappeler de ça parce que. Je vais pas y vivre toute ma vie et puis que ça va finir un jour aussi.
Parce que du coup, tu y as vécu plusieurs années, c'est ça?
Ouais, j'ai passé trois... Ben là, je suis dans mon début de 4e année à la ZAD.
Ouais. Tu pourrais redire pour nos auditeurs et nos auditrices un petit peu la ZAD, vite fait, si c'est un peu connu, mais...
Alors la ZAD, c'est un projet d'aéroport des années 60-70 sur Nantes.
Et... Les ZAD, c'est zone à défendre.
Alors, la vraie définition, c'est zone d'aménagement différé. Il y a 6 ans, il y a eu un appel à occupation des terres et des maisons vides, parce qu'il y a 6 ans, le maire de Nantes, M. Jean-Marc Ayrault, a décidé de relancer le projet. Qui avait été abandonnée depuis 40 ans, 30 ans, quelque chose comme ça. Parce qu'à l'époque, du coup, dans les années 60-70, ça n'avait pas abouti. Les paysans s'étaient opposés à ce projet, les habitants, ils n'étaient pas d'accord, ils n'avaient pas envie de voir leurs terres détruites. Et le projet a été abandonné. Et Jean-Marc Ayrault l'a relancé.
Et les nouveaux paysans, les nouveaux habitants se sont réopposés à cette histoire. Et il y a 6 ans, ils ont décidé de faire un appel à occupation des terres. Et la première maison a été ouverte. Et puis après, les gens ont commencé à arriver, à occuper les terres. Et du coup, c'était plus que les maisons aussi, parce qu'au début, il y avait des occupations de maisons. Et au bout d'un moment, des gens sont arrivés avec des connaissances dans la construction de cabanes, des envies d'habiter dans les arbres. Et voilà. Et moi, j'ai des copains qui avaient entendu parler de ça. Je squattais à Nantes. Et j'ai des copains qui m'ont dit... on va aller voir sur la ZAD comment ça se passe. On a envie d'y vivre, on a envie de participer à cette lutte. Et je suis partie pour une après-midi et... Bah tu vois, j'entame ma 4e année, quoi. Mais je voulais pas du tout parce que je suis quelqu'un de la ville et pour moi... Pour moi, c'était un peu genre habiter à la campagne, ouais, d'accord. Qu'est-ce que je vais foutre à la campagne, quoi. Et puis voilà. Et du coup, je sais très bien que je vais partir et je pense bientôt même et... L'année dernière, je me suis dit, ouais, j'ai envie de garder des souvenirs de cet endroit quand même, de m'en rappeler. Et si un jour j'ai la mémoire qui flanche, et ben, ces souvenirs, ils seront sur ma peau. Je pense.
Il y a une phrase aussi dans ton. Qu'est-ce que c'est? On pourrait décrire pour nos auditeurs aussi des genres de.
Alors c'est écrit en anglais. Ouais. Ça dit "We're not fighting for nature, we're nature fighting back." Et en français, ça veut dire "On ne se bat pas pour la nature, nous sommes la nature qui riposte." Et
ça me rappelle une phrase d'Antonin Artaud. L'homme et la nature prennent conscience d'elles-mêmes. La femme et la nature prennent conscience d'elles-mêmes.
Mais c'est ça en fait. Ouais. Je crois que c'est vraiment pour dire que... Enfin, moi je vois bien tous les déchets qu'on peut avoir et tout ce qu'on peut détruire et que l'humain il a cette notion d'être la race supérieure et d'avoir le pouvoir sur plein de trucs et que du coup il se passe plein de choses. Et moi en arrivant à la ZAD j'avais envie de rechercher un peu ce côté... Enfin, on est aussi une espèce animale et en fait, je sais pas, j'avais envie de ce truc de me dire que j'avais pas à défendre la nature ou quoi, mais que j'en faisais partie et que...
Il faut prendre soin de...
Et qu'il faut prendre
soin
de soi. Il faut prendre soin de soi pour prendre soin de tout ce qui t'entoure et c'est pour ça que j'ai découvert un truc sur la ZAD qui était génial, genre les constructions. Et c'est les constructions qui respectent en fait... comment dire... l'endroit qui t'accueille, c'est-à-dire les constructions dans les cabanes sur la ZAD, c'était génial. Moi, j'ai appris à construire sans clous, sans vis. Enfin, tu abîmes pas l'arbre, tu mets rien dedans, parce que l'arbre, il est là, il t'accueille, il t'aide, il te file un coup de main dans toi. Toi, tu vas te battre pour que lui soit pas détruit, mais lui, il est là pour t'accueillir tout le temps où t'es là. Ouais. Et du coup, j'ai appris les constructions avec de la corde et vraiment sans clous, sans vis, sans rien. Et ça m'a vachement touchée en fait.
Et là, pour le coup, elles sont hyper présentes, les plantes. Enfin, c'est un peu plus compliqué que des plantes. Est-ce que tu pourrais décrire un peu ?
C'est des ronces. Et alors, pourquoi la ronce ? J'aime beaucoup cette plante parce que c'est une plante qui te nourrit. Déjà, elle te donne des murs. Elle fait des fleurs magnifiques. C'est vraiment hyper beau, les fleurs de ronce. Et en même temps, elle sait très bien se défendre. C'est-à-dire qu'elle donne beaucoup aux autres. Elle donne par le goût, elle donne par la vue, elle te donne quelque chose de beau et de bon. Et en même temps... Ah ouais, grave. Et en même temps, elle se défend vachement bien. Elle est pleine de piques.
Ouais, merci.
En fait, je la trouve belle dans le sens où elle donne et elle se protège, quoi. Et je trouve qu'il y a une parfaite... C'est con, hein, parce que c'est mon prénom. Il y a une parfaite harmonie dans cette plante, vraiment. Elle va donner et en même temps savoir se protéger au maximum. Et je trouve qu'on devrait savoir faire ça, nous aussi.
Et alors moi, ce qui m'interpelle là, c'est que du coup, justement, avec cette expérience de la ZAD, t'as aussi vachement été confrontée à la répression policière, au contrôle de l'État, tout ça. Et du coup, comment tu vois ou comment tu vis le fait aussi d'être reconnaissable, identifiable, tout ça ?
Eh bien, ça a été une grosse question avant justement cette semaine d'échange et de savoir. Où j'ai eu mon premier tatouage, je me suis beaucoup posé la question parce que j'aime aussi beaucoup participer aux actions ou aux manifs et j'ai pas envie d'être reconnaissable ni par mes empreintes, ni par ma photo, ni par quoi que ce soit. Et du coup, je me suis dit que les tatouages que je me ferais, ça serait toujours des tatouages que je peux cacher. Donc j'ai décidé, par exemple, je me tatouerais pas les mains parce que je peux pas le cacher, je me tatouerais pas le visage parce que je peux pas le cacher. Et...
Après, je me suis fait arrêter après mes premiers tatouages et donc ils notent tous les signes descriptifs.
Ils prennent en photo, mais j'ai aussi découvert que tu avais le droit de refuser la photo et que du coup, la description des tatouages par écrit, c'est pas une preuve en soi, elle veut rien dire, donc eux peuvent le garder dans des fichiers. Mais au niveau juridique, ils pourront jamais s'en servir. Ils pourraient s'en servir si tu acceptes l'identification par la photo, les empreintes et tout ça. Enfin, mais là, en l'occurrence, par la photo, ils pourraient s'en servir. Mais à partir du moment où tu refuses, normalement, ils n'ont pas le droit. Donc le flic pourra te reconnaître toi, parce qu'il le sait. Mais si jamais tu te fais arrêter et que tu as un procès, c'est pas une pièce qui pourrait passer en procès. Et puis après, je me suis dit, ouais, merde, quoi. J'ai envie de vivre et j'aime le tatouage et voilà. Et puis peut-être un jour je me calmerai, j'arrêterai d'aller en manif, j'arrêterai de faire des actions. Et... on sait pas. Je sais pas moi. Et je me dis que les deux sont pas incompatibles. Il faut faire. Voilà. Quand t'as envie de faire les deux, tu peux toujours. Il faut soit poser des petites limites ou soit faire des efforts. Et même s'il fait 40 degrés, tu mets un t-shirt à manches longues ou un foulard ou je sais pas ce que tu veux, mais. C'est toujours possible, quoi.
Pour protéger tes pièces, tu parles ?
Non. Pour protéger. Parce qu'en fait, le tatouage, c'est quelque chose d'identifié. C'est surtout, ils s'en servent en tant qu'identification. Si tu te fais arrêter et qu'ils prennent une photo, et ben après, genre si t'as un procès, ils ont la preuve par 12 que c'est toi. Parce qu'ils ont, même s'ils n'ont pas tes empreintes, on va dire, et que t'as pas refusé la photo et que donc ils l'ont prise, ils vont prendre des photos de tes tatouages et du coup, même s'il n'y a pas tes empreintes et ton ADN, lors d'un procès, il y a la photo de tes tatouages et un juge... voilà. Enfin, et du coup, dans la loi, surtout... dans la loi, ça compte comme pièce à conviction. Je sais pas comment dire, mais...
Ah, si tu te fais prendre en photo en garde à vue, par exemple.
Et pas que en garde à vue, et c'est ça le problème. C'est que si tu es en manifestation... et que, par exemple, la gendarmerie ou la police a comme autorisation ou même comme ordre de prendre des photos, que tu te fais reconnaître, que du coup, ils ont des photos de tes tatouages et que si un jour, tu te fais arrêter, même si tu refuses la photo, l'identification par photo, si ils ont des vieilles photos de toi, de manif ou d'action ou quoi que ce soit, ça pourra servir de pièce à conviction à ton procès. Et c'est pour ça qu'il faut, à partir du jour où tu décides de te faire tatouer et que tu décides de continuer ta vie un peu active... il faut faire hyper gaffe, en fait.
Parce qu'on peut vraiment toujours choisir aussi, tu vois. C'est aussi quelque chose... tu disais que c'est pas toi qui choisis aussi le moment où tu prends la photo pour être identifié, notamment pour rentrer dans des fichiers. Si à un moment, il se passe quelque chose que tu contrôles pas, le vêtement ou la situation, tu vois, enfin... C'est aussi quelque chose qu'à un moment, il s'est inscrit. C'est ça, l'histoire du tatouage. C'est que c'est quelque chose qui est inscrit sur toi. C'est une marque comme une autre. Il y en a d'autres. Il y a des gens qui sont stigmatisés pour d'autres raisons, qui sont identifiables pour d'autres raisons. Pour moi, c'en est une de plus parmi d'autres, puisque en fait, c'est des signes de reconnaissance distinctifs, stigmatisants pour certaines personnes ou à certains moments ou dans certains contextes géopolitiques ou géographiques, tu vois.
Moi, je pense qu'on peut faire des choix. Je rejoins ce que tu dis, Pete, sur le fait qu'on perd le sens du tatouage vachement. Et que aujourd'hui, moi, ce que je vois autour, c'est que c'est un bijou. C'est vraiment c'est quelque chose à montrer, à exposer. Tu vois, c'est vraiment regarde. Et moi, j'ai ce côté-là aussi, je le nie pas. Alors, vraiment, je crois que je fais de l'autocritique. Mais je pense qu'on fait des choix et que. Il y a un moment, même si tu choisis pas toujours, comme tu dis, tu choisis pas les moments où tu vas te faire identifier, tu choisis pas pourquoi tu vas te faire identifier, parce que ça t'appartient pas, parce que c'est la personne qui est en face qui va te filmer, te prendre en photo et que tu le sauras pas toujours. Je pense qu'on peut limiter la casse, en fait. Ouais, en fait, moi je crois que je suis plus dans cette idée-là. Je suis dans l'idée de... j'ai envie de continuer ma vie où je me bats pour 12 milliards de raisons et j'ai envie de faire des manifs et des actions... Et en même temps, j'ai envie de me faire tatouer, mais du coup, je vais faire en sorte que ce soit toujours cachable, ou que je puisse toujours le cacher, ou tu vois, le dissimuler derrière quelque chose. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a aussi quand même une grosse part de choix personnel. Peut-être faut se poser plus de questions. Et je crois qu'il y a beaucoup de tatouages qui se font sur des coups de tête aujourd'hui. Et je suis la première. Mais du coup, j'ai choisi les endroits. Et je pense que tu peux toujours avoir conscience de ça, en fait. Et même si c'est vrai que tu choisis pas les moments où tu te feras identifier. Et pourquoi tu te feras identifier surtout. Parce que moi j'ai aussi des piercings et je peux me faire identifier à n'importe quel moment. Et Et de toute façon, même sans rien sur la ZAD, c'est impressionnant. Il y a une nana, elle fait partie de la gendarmerie. Elle est physionomiste, c'est son travail. Elle m'a pas vue pendant 6 mois. En 6 mois, j'avais changé de coupe de cheveux. J'avais des vêtements complètement différents. J'avais des grosses lunettes de soleil. Et je suis arrivée. Et vraiment, j'avais...
Salut, Harmonie.
Elle m'a regardée, elle m'a dit « Ça va, Harmonie ?» Et j'étais là « Putain, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, quoi ?» Et parce qu'en fait, à un moment, t'es reconnue par ta démarche. Du coup, moi, c'est rigolo. Il y a un moment, le juge est venu sur la ZAD pour estimer le prix des terres. On avait décidé de monter une barricade. Donc, je me suis déguisée en fermier. Et j'ai vu la physionomiste arriver et ça m'a fait tilt. Et je me suis dit, il faut que je change de démarche, en fait. Et il faut faire hyper attention parce qu'ils te reconnaissent par ta voix, par ta démarche, par tes mains. Par tes mains, quoi. Et donc, c'est vrai que tu choisis pas toujours. Mais je pense que...
Et ta couleur de peau aussi. Hein.
Et ta couleur de peau, bien sûr. N'importe quoi, la couleur de tes yeux, si t'es tout caché mais que t'as pas mis de lunettes de soleil, tes ongles, c'est un truc de fou, ta taille, tes cheveux, tes oreilles. T'as beau être super caché, machin, ils vont voir ton oreille. Et la nana, c'est son travail, c'est sa vie, et elle sera quittée, quoi. Ta voix, c'est un truc auquel on pense jamais. Juste, il y a un moment, tu vas avoir le réflexe d'appeler ton pote ou de crier un truc. Et là, en face de toi, le flic, il va faire « Ah bah voilà, ça c'est un tel ». Parce que t'y penses pas, quoi. Mais en fait, faudrait tout changer dans ta vie. Faudrait penser à chaque petit détail. C'est pas toujours facile. Je pense que c'est faisable. Je crois qu'il y a des gens qui le font très très bien. Mais t'apprends pas ça en un an ou deux.
Ouais, et puis t'as malgré tout des limites, quoi.
Et
changer
ouais.
de couleur de peau, c'est un peu limité comme démarche, quoi.
Tu peux pas, mais tu peux.
Jackson a réussi, mais...
Ouais.
mais quand même.
Ouais,
et puis c'est violent, quoi. Enfin, je veux dire, il y avait aussi plein de meufs, par exemple, qui se blanchissent la peau avec des produits dégueux, et c'est hyper
si on parle
trash, quoi.
Ce sujet-là, c'est impressionnant, hein. Entre les Asiatiques qui décident de se faire débrider les yeux pour avoir des... Tu vois, une ressemblance occidentale. Enfin, la société, elle te pousse à faire des trucs de fou furieux, quoi. Mais après, je reviens à cette histoire de si t'as envie de lutter dans ta vie, tu peux te camoufler de la tête aux pieds, c'est absolument possible. Mais c'est ce que je dis, faut y penser à chaque fois.
Et du coup, je reviens à ton tatouage, mais je me demandais, la personne qui t'a tatoué là, tu l'as rencontrée comment ?
Eh ben, sur la ZAD. Et je me suis dit, ouais, quitte à me faire tatouer, vu que le premier, ça avait aussi été fait par une copine, je me suis dit, autant que ça reste dans cet état d'esprit-là, de se faire tatouer par des amis, des gens en qui on a confiance. Et voilà. Et elle m'a dit, bah écoute, je suis en train d'essayer une nouvelle méthode, c'est des petits points, elle fait du pointillisme, et moi j'ai dit, vas-y. J'avais une confiance aveugle, et je crois que j'ai bien fait.
Bah, ça marche très bien, ouais.
Et bien surtout qu'en fait, moi je me rends compte que quand un tatoueur il a vraiment une grosse partie de libre arbitre, il est vachement plus dedans. Il va aller au meilleur parce que ça vient de lui, c'est vraiment du fond de son cœur, du fond de son bide. Et du coup le résultat est vachement plus joli, moi je trouve. Et pas que sur moi, je l'ai vu chez plein de gens en fait. Je pense qu'il faut aussi respecter un peu... Enfin, c'est hyper agréable de recevoir un tatouage. Moi je trouve ça agréable, pas du tout douloureux ou quoi que ce soit. Même si des fois ça fait mal, je trouve que c'est une sensation super forte... Ouais, mais je crois qu'il faut vraiment respecter les envies du tatoueur, en fait. Il est dans son truc, il fait ce qu'il veut.
Il sera dans une bonne vibration, du coup, ouais.
Ouais, c'est un... Ouais, moi, je trouve ça chouette. Et après, je comprends qu'on puisse demander... Moi, je tatoue d'autres gens aussi, et je le fais, du coup, à la main, à l'aiguille à la main. Je crois que c'est très agréable quand t'as la possibilité de te lâcher et de faire vraiment ce qui vient de tes tripes et ce que t'as envie de faire, et... Voilà.
Ouais, je crois.
Radio Dio 89.5 d'Horizon Mordante, toujours pendant le festival Autoclave, un reportage sur, avec des personnes qui nous parlent de leur rapport au tatouage. On continue.
A défini la perfection, quoi. D'où elle sort, cette perfection? C'est quoi la perfection? Parce qu'on est tous différents, on a tous une vision différente de la chose, on a tous une manière différente de la ressentir, on a tous une manière différente de la concevoir, de la penser. Et du coup, pour moi, la perfection, c'est un truc qui est, en fait, alors, c'est censé être concret, c'est censé être quelque chose de précis et de concret, et pour moi, c'est hyper abstrait, quoi. Ça dépend d'un chacun. Ce que moi, j'aime, toi, tu vas pas l'aimer, ou tu vois. Et les gens sont dans cette recherche de perfection, mais pas que du tatouage en plus, tu vois, ouais. dans le corps, dans l'esprit, d'être parfait, de plaire à tout le monde, de... Il y a un truc tout simple, d'être beau aux yeux de tout le monde. Mmh. C'est hyper con. Mmh. Tu seras jamais beau aux yeux de tout le monde. Tu pourras jamais. Et tu seras jamais content de toi-même, donc tu seras jamais content de ce que tu feras. Et pourtant, il y a des gens qui t'aimeront et qui seront contents de ce que tu vas faire. Et, Enfin, moi, c'est un truc qui est tellement abstrait pour moi, je comprends pas cette idée de...
Tu vois, la discussion de tout à l'heure sur la nature, quoi. La nature, elle n'est pas dans un souci de perfection.
Ah, putain, les choses,
et chaque chose est différente et c'est riche d'enseignements.
C'est le plus bel exemple, quoi. Tu trouveras jamais un arbre pareil, une fleur pareille, n'importe quoi. Il n'y aura jamais rien de pareil. Le seul truc que tu peux faire de pareil, c'est dans la construction, je sais pas moi, d'un bâtiment, par exemple. Un architecte, il va te faire deux immeubles pareils. Et encore... Ça marchera même pas. Mmh. T'auras forcément une différence quelque part. Et je comprends.
Il y a une logique du même, du coup.
Ouais, moi je dis du pareil, ouais. Faut que ce soit pareil que quelque chose. Mmh. Sauf que ce sera jamais la même chose, ce sera jamais pareil. Pour moi, c'est fou. Et je pense que les gens n'arrivent pas à accepter ça. Et je trouve ça bizarre, parce que dans tout ce que tu fais dans ta vie de tous les jours, que tu cuisines, que tu fasses du vélo, que n'importe quoi, hein. Tu pourras jamais faire quelque chose à l'identique, quoi. Je pense, à part pour une machine,
ouais, voilà,
c'est impossible. C'est impossible. À partir du moment où tu as des sentiments, des émotions, un ressenti, une conscience, tu peux pas faire la même chose de la même manière. Parce qu'on évolue en permanence. Je prétends pas avoir une discussion hyper profonde et tout, mais je trouve ça juste fou, en fait. Moi, ça me fait halluciner.
Et où est-ce que tu ressens ce truc de la... Enfin, puisque j'ai raté le début de ce que tu disais sur la perfection, en fait. Moi, ça me faisait penser que la société dans laquelle on vit, elle est vraiment basée sur un truc de représentation et d'apparence hyper forte. Et que du coup, je trouve ça logique que tout le monde soit pris par ça. Parce qu'en fait, si t'as pas la bonne apparence ou la même bonne représentation, et ben t'es dans la merde, en fait.
Ouais.
Et du coup, tu reçois de la violence, et puis t'es exclu, enfin, t'es discriminé. Du coup, tu vois, c'est pas un petit enjeu. Donc, pouvoir se défaire de ça, c'est aussi un luxe, pas au sens bourgeois, mais un vrai luxe de la vie, un privilège au sens pas le plus.
Ouais. Je sais pas, mais en fait, on parlait de l'école et de ce truc de... Quand tu nais... C'est simple, c'est tu nais et il faut déjà dès la naissance, ce qui est un gros enjeu, enfin un gros problème pour les gens qui naissent intersexes, c'est qu'il faut que tu naisses garçon ou fille. Si tu nais avec des chromosomes hommes et des organes femelles, et ben on va dire oh là là mon Dieu, il faut qu'on fasse quelque chose. Si tu nais complètement hermaphrodite avec et un sexe féminin et un sexe masculin, et ben on va dire oh il faut qu'on l'opère, il faut qu'il se passe quelque chose. Du coup on est déjà dans cette recherche de perfection du genre. Et moi je dis perfection parce que dans la tête des gens c'est il faut que tu sois soit femme,
normalité,
soit homme,
ouais.
Normalité.
Normalité.
Et mais il faut que ce soit parfait. Il faut pas qu'il y ait de déviance. Il faut que ce soit comme ça. C'est tout. Et en plus voilà, j'ai utilisé le mot déviance que j'aime. Du tout, c'est horrible. Et dès que tu nais, t'as ça. Et ensuite, on t'amène à l'école. Alors souvent, on t'amène à l'école. Déjà, eh ben, si t'es un garçon, tu mettras des pantalons parce que les parents, ils ont souci de l'image que leur enfant va avoir vis-à-vis des autres. Donc, soit t'auras un pantalon, soit t'auras des jupes, soit t'auras des couettes, soit t'auras les cheveux courts. Mais ça marche pas pour... Tout ne marche pas pour les deux sexes. Ça sera bien délimité entre chaque sexe. Parce qu'il y en a que deux en plus. C'est comme ça dans la tête des gens. Tout va comme ça. Toute l'éducation, elle est comme ça. Et on est dans cette recherche de il faut que ce soit parfait. Il faut que tout soit parfait pour mon enfant. À l'école, il faut que tout soit parfait pour eux. Et en fait, dans cette perfection, on perd le libre arbitre, on perd les sentiments, les émotions, le feeling. Et du coup, je trouve que c'est de là que découlent ces problèmes d'être différent et d'avoir de la violence. Parce que quand, à l'intérieur de toi, tu peux pas faire partie de ce truc genré, quand, à l'intérieur de toi, tu peux pas faire quelque chose qui te correspond pas, et ben là, on découle de la violence. Et soit t'as la chance d'être né avec un entourage merveilleux ou une force de caractère incroyable, et du coup, tu vas combattre ça. Soit tu te laisses aller là-dedans et alors là, je trouve ça hyper triste et dur. Et...
Avec le tatouage, est-ce que toi, tu as l'impression de trouver quelque chose qui te permet de faire un peu quelque chose de ça, justement ?
Moi, je suis issue d'une... On est trois frères et sœurs dans ma famille. J'ai eu deux grands frères et après mon deuxième frangin, mon père avait absolument envie d'une petite fille. Bref, du coup mes parents ont fait une fille, leur chance. Hein, et du coup j'ai été éduquée dans cette idée qu'il fallait que je sois une fille puisque mon père voulait une fille absolument. Et je crois que hyper tôt, consciemment ou inconsciemment, je suis allée à l'encontre de ça. Et alors peut-être c'est à cause de ça, cette idée qu'il fallait que je sois la vraie petite fille parfaite dans leur tête. Et ben, je sais pas si c'est à cause de ça, mais moi je me suis toujours sentie non, j'irais pas dans ce sens-là, c'est pas mon truc quoi. Et ouais. Et le tatouage, c'est un. Moi je crois que je ressens que j'ai eu vachement envie de dire tôt merde. Merde, je serais pas comme vous avez envie que je sois, et merde, j'ai envie de vivre ma vie pleinement et de me sentir bien dans mes pompes, parce qu'en fait. Je crois qu'il y a un truc qui est oublié par les gens, c'est que l'idée, c'est de se sentir bien dans ses baskets avant tout. Et que moi, je vois ma mère, elle le fait pas du tout. Vas-y.
Non, non, j'allais dire une grosse bêtise.
Faut-il encore porter des baskets?
Ouais, c'est ça. Je porte pas de baskets en ce moment. Non, mais de se sentir bien dans ses pompes. Tiens. Ouais. Je crois que c'est... en fait, c'est ça le but ultime. C'est vraiment de se sentir bien pour être bien avec les autres, parce que... C'est clair que ça vient... Beaucoup des parents, je pense. Enfin, des parents. Parce que t'as pas toujours la chance d'avoir des parents qui sont à ton écoute et tout
bien
ça.
Sûr,
et, tout.
Bien sûr.
Et parce que, en plus, tes parents n'ont peut-être pas connu ce que toi tu vas connaître ou ce que t'as envie de vivre, qui sont pas. Ou alors qui sont très heureux dans leur monde, soit parce qu'ils ont reçu cette éducation et qu'ils en sont satisfaits, soit parce qu'ils se sont jamais posé d'autres questions parce que c'était comme ça et pas autrement. Et que du coup, ils pourront pas t'inculquer autre chose que ce qu'eux, ils ont connu.
Ouais.
Et donc c'est clair que ça vient aussi peut-être du parcours que t'as à un moment donné, des gens que tu rencontres, de l'entourage que tu te crées. Ouais. Moi je trouve ça hyper dur tous ces sujets en fait, parce que t'as tellement d'éléments qu'importe, de choses qui diffèrent et de chances que certains vont avoir ou pas d'autres, soit la chance, soit il y a aussi forcer sa chance. Hein. Et donc il y a vachement de choses qui viennent de ton éducation, et en même temps est-ce que tu peux blâmer tes parents toute ta vie? Ou essayer de les comprendre à un moment donné et pas leur en vouloir.
Ouais, ce qu'eux ont reçu et avec...
D'autres choses à rajouter sur le tatouage, être une meuf tatouée, être une meuf qui se fait tatouer par une meuf.
Et ben alors moi je trouve ça, c'est très con ce que je vais dire, je trouve ça hyper sexy le tatouage. me faire tatouer par une meuf, je trouve ça génial parce que dans le tatouage ça a été pendant très longtemps un milieu très masculin et que soit en tant que tatoueur ou en tant que tatoué, c'était... ouvert aux hommes plus, et que souvent les femmes tatouées, c'était soit elles étaient vues comme des j'ai pas les mots, mais c'était pas très bien vu en fait, d'être une femme tatouée, t'étais forcément différente, considérée différemment. Mais ouais, moi le tatouage je trouve ça magnifique, surtout quand il a une histoire qui veut dire quelque chose. Et j'étais très contente aussi de venir à cette convention, j'ai passé un bon moment je crois, et du coup j'en referai d'autres.
Et voilà, c'est la fin d'Horizon Mordante. Du coup, d'Horizon Mordante, une émission tous les 15 jours, un mercredi sur deux, le premier mercredi et le troisième mercredi du mois. On essaye un peu de tenir ce créneau, de 20h à 21h sur Radio Dio 89.5. Et du coup, bah, je voulais remercier toutes les personnes qui ont participé à ce reportage, qui ont bien voulu répondre à mes questions dans le premier et le deuxième épisode, puisque j'espère très bientôt, quand j'aurai résolu les problèmes de mise en ligne, on pourra retrouver toutes ces émissions sur Internet, sur le site de Radio Rageuse, radiorageuse.org, un site collectif de mise en ligne de plein d'émissions trop chouettes nationales, plein d'autres émissions féministes et transpédéguines et plein d'autres définitions que les gens se donnent. Voilà, du coup, on vous quitte ce soir. J'étais la seule au micro, mais on était là en force et on revient dans 15 jours pour une autre émission d'Horizon Mordante. Bonne soirée. Et oui, j'ai oublié d'annoncer le groupe. Alors c'est, je vais peut-être mal le dire, Brockdorf Klang Labor, et c'est Some Girls Are Bigger Than Others.